on m'a dit qu'on m'entendait mieux comme ça, donc vous me confirmerez ça par la suite, si vous m'encouragez dans ce sens-là ou pas. En tout cas, je prends les applaudissements comme des encouragements pour Benjamin. Et du coup, ça nous encourage aussi parce qu'effectivement, il s'est présenté d'abord devant moi. Puis j'ai dit, c'est intéressant ça, il faudrait que tu en parles au conseil pastoral. Donc il s'est présenté devant le conseil pastoral qui a dit, c'est intéressant ça, il faudrait que tu en parles au conseil diaconal. Donc il en a parlé au conseil diaconal qui a dit, c'est intéressant ça, il faudrait que tu en parles à l'église. Donc si vous trouvez que c'est intéressant aussi, évidemment, ça encourage tous ceux qui l'ont rencontré en amont à poursuivre dans ce sens-là. Donc vous savez que Benjamin et Cécile sont arrivés. Ça fera bientôt un an maintenant, à l'été. Ils avaient demandé à être membres de l'Église. On a dit non. Non, ce n'est pas qu'on a dit non, c'est que vous savez qu'il y a une règle, ce n'est pas une règle, mais enfin, il y a une recommandation dans notre règlement intérieur qu'on est en train de retravailler d'ailleurs, qui propose en tout cas aux nouveaux arrivants de patienter une année pour faire connaissance avec l'Église, pour s'intégrer, etc. Donc ils se sont pliés bien volontiers à cette recommandation qu'ils ont sans doute trouvé sage. En tout cas, ils n'ont pas eu le choix. Mais voilà, on continue évidemment de cheminer avec tous ceux, parce qu'ils ne sont pas les seuls en fait, à avoir demandé à être membres et à qui on a fait la même proposition. Et on continue évidemment à cheminer avec chacun. Et là, voilà, ça semble tout à fait cohérent, en tout cas, effectivement, de l'encourager. Tant et si bien qu'il est déjà prévu que vous entendiez Benjamin prêcher dans le courant de l'été au mois de juillet. Voilà pour un peu les présentations. Et maintenant, la prédication. Quand j'avais une quinzaine d'années, mon beau-père, donc qui était donc le compagnon de ma mère, me dit un jour, tu ressembles à Christophe Lambert. Si ça se trouve, tu as tes chances comme mannequin. C'est agréable. Merci. Alors, faut pas s'emballer, c'est vrai, parce que je vous parle là quand même de quelqu'un qui déjeunait en se faisant des tartines de camembert qu'il trempait dans le café et qui, un jour, voulant faire du canard à l'orange, mais n'ayant ni canard ni orange, s'est rabattu sur un poulet au coca. Donc, son avis en matière de goût et d'esthétique, effectivement, est discutable. D'autant que pour être mannequin, il y a des critères. Visiblement, vous êtes au courant. Faut être beau. Et là, je suis désolé de vous dire que je suis beau. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il faut être bien taillé, avoir un corps bien sculpté. Alors bon, ça ne s'améliore pas avec le temps, mais à 15 ans, ça passait encore. Et puis surtout, il faut... Enfin surtout, non, un autre critère, c'est d'être grand. Voilà. Alors... Pour le ministère pastoral, il se trouve que ce n'est pas grave, tout ça, parce que, notamment, la taille ne fait pas partie des critères pour le ministère pastoral, ce qui, moi, personnellement, m'arrange bien. La Bible, par contre, effectivement, donne des critères pour ceux qui aspirent à être en responsabilité en Église. Et en cette journée, effectivement, des vocations, c'est aujourd'hui la journée des vocations de la Fédération, enfin, en fait, c'était la semaine dernière, mais nous, on l'a fait aujourd'hui. C'est pour nous un moyen déjà de nous rappeler que Dieu appelle en fait. C'est une bonne chose de se le rappeler de temps en temps. C'est une bonne chose aussi de voir ceux qu'il a déjà appelés, qui ont déjà répondu à son appel et qui sont en train là actuellement d'étudier à la fac, parce qu'effectivement parmi eux il y a peut-être le ou la futur pasteur de cette église. Donc c'est intéressant aussi de faire un peu leur connaissance. En cette journée des vocations, donc, ça vaut la peine de passer en revue un petit peu les critères qui sont donnés, pour au moins deux raisons. La première, c'est que certains d'entre vous, on en a entendu un ce matin, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, sont appelés par le Seigneur à le servir en prenant un jour une responsabilité dans l'Église. Il y en a parmi vous, c'est sûr. Certains le savent déjà. Plus ou moins, peut-être un peu confusément, mais Dieu leur a déjà parlé. ça travaille. Certains ont même déjà répondu à son appel. J'ai pas la mémoire suffisamment courte pour avoir oublié qu'à Connexion, des jeunes qui sont parmi nous se sont levés suite à un appel, non pas à la conversion, il y en a eu, c'est pour ça qu'on a eu des pelletés de baptême dernièrement, mais un appel au ministère. Certains se sont levés parmi nous. Alors c'est quand même intéressant effectivement de jeter un œil aux critères que la parole nous donne pour un tel appel. Et la deuxième raison, c'est que en fait nous sommes tous ici appelés à discerner qui nous mettons en responsabilité dans l'Église. On ne met pas quelqu'un en responsabilité uniquement parce qu'il y aspire. On ne met pas quelqu'un en responsabilité uniquement parce qu'il y a un trou à combler dans un planning. On ne met pas quelqu'un en responsabilité même parce qu'on l'aime bien. En fait, il y a des critères qui existent et il y a un discernement spirituel à avoir communautaire. Et c'est important parce que les personnes en responsabilité sont en position d'influence dans l'Église. Ce n'est pas un gros mot, l'influence. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, les publicitaires le savent pour vous, nous sommes tous et chacun des êtres influençables. Et ce n'est pas grave d'être influençable parce qu'en fait, c'est même grâce à ça qu'on grandit, c'est grâce à ça qu'on apprend, à condition en tout cas qu'on se laisse influencer par des gens qui effectivement nous tirent vers le haut. Le problème, c'est que il peut aussi y avoir des gens qui nous tirent vers le bas, y compris en Église d'ailleurs. Et donc la question, c'est bien de discerner, parce que ça se fait devant Dieu, c'est pas nous qui décidons de ça, mais c'est bien de discerner qui nous allons laisser nous influencer dans notre vie. Ça, c'est notre responsabilité, c'est notre part. Voilà pourquoi on va passer en revue ce que la Bible nous dit. Donc on va ouvrir nos Bibles en 1 Timothée, au chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Donc c'est une épître pastorale qui arrive juste après toutes les lettres aux églises de Paul. Et la première épître qu'il adresse à quelqu'un, c'est celle à Timothée. Et je vais prier. Seigneur, ta parole nous fait du bien. Ta parole est vie, ta parole est vivante. Seigneur, nous en appelons à ton Esprit Saint pour que notre lecture soit une lecture spirituelle et non une lecture charnelle. Qu'on puisse très simplement comprendre ce que tu veux nous dire à travers ces mots et comprendre comment est-ce que ça vient toucher notre vie, changer nos attitudes, renouveler notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais lire les 7 premiers versets de 1 Timothée 3, qui nous disent ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage, pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. Amen. Alors, on est là dans le cadre d'une lettre pastorale. Paul, ici, ne s'adresse pas à une église, il s'adresse à quelqu'un en particulier, il s'adresse à Timothée, qui, lui, est responsable de l'église d'Éphèse. Et il lui prodigue quelques conseils concernant les personnes qui peuvent être mises en responsabilité dans l'Église. En vérité, il y a beaucoup à dire sur ce texte, je m'en suis rendu compte, parce qu'en rédigeant ma prédication, je me suis retrouvé avec le double de ce que je fais d'habitude. Du coup, j'ai scindé en deux. Donc, eh bien, il y aura finalement plusieurs prédications sur ce thème. Aujourd'hui, je vais introduire, mais la prochaine fois, je pense qu'on poursuivra. Et la première chose que dit Paul, c'est que si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette affirmation de Paul, et en premier lieu, on va éclaircir un peu ce terme un peu étrange de épiscope, parce que dans ma traduction, qui est la Nouvelle Bible Seconde, donc, les traducteurs ne se sont pas foulés, en vrai. Ils ont pris le terme grec et ils l'ont laissé tel quel, quasiment. Le terme grec, c'est « épiscopos ». Donc, ils n'ont pas traduit, c'est de la translittération. Dans certaines de vos Bibles, vous aurez remarqué que c'est marqué autre chose. Vous allez lire « évêque » dans certaines traductions. Vous lirez « responsable » dans d'autres. Si quelqu'un veut être responsable, quelqu'un veut être évêque. Alors, je dirais que la traduction probablement la plus proche, la plus correcte, c'est « évêque ». Mais le problème, c'est que ça fait penser à la structure hiérarchique de l'Église catholique. Or, c'est pas de ça qu'il s'agit. Episcopos, ça vient de scopos en grec. Et scopos, c'est le veilleur. C'est un rapport avec la vue. On retrouve ça dans télescope, l'appareil qui sert à regarder le ciel. On trouve ça dans périscope, c'est l'appareil dans les sous-marins qui sert à regarder ce qui se passe à la surface. Péri, c'est autour, scope, c'est la vue, voilà, on regarde tout autour avec le périscope. Et le préfixe épi, ça veut dire sur, ce qui est au-dessus. Un épiscope, littéralement, c'est un surveillant. Mais ce n'est pas non plus très adéquat comme traduction, parce qu'en français, un surveillant, on y entend une notion de contrôle. On pense au surveillant du lycée qui vérifie qu'on ne fait pas le bazar. On pense aux surveillants de prison, etc. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça non plus, parce que la partie forte du mot, le cœur du mot, ce n'est pas le fait d'être au-dessus, c'est la notion de veilleur. Ce n'est pas tant un surveillant qu'un veillant sûr. Son rôle, c'est de prendre soin de la bonne marche de l'Église, prendre soin des personnes. Et c'est un ministère, c'est-à-dire que c'est un service. Un ministre, contrairement à ce que notre observation du monde pourrait nous laisser penser, c'est un serviteur. Un ministre de la nation, c'est un serviteur de la nation. Et donc, celui qui aspire à prendre soin du peuple de Dieu désire, nous dit Paul, une belle œuvre. Une belle œuvre. Juste, je reviens sur la question de épi, parce que ça me semble important, voilà, cette notion de sûr, en fait, pourquoi est-ce qu'on est sûr? C'est parce que, de là où je suis, je vous vois tous, c'est ça, en fait, c'est cette idée-là. C'est pas une idée de domination, c'est plutôt une idée d'avoir suffisamment de hauteur pour considérer l'assemblée dans son ensemble, la connaître dans son ensemble. Le deuxième point que je veux souligner avec l'expression de Paul, c'est que le ministère pastoral, la responsabilité en Église, c'est une belle œuvre. C'est beau, c'est honorable. Prendre soin du peuple de Dieu, c'est une belle œuvre. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que, compte tenu de ce qu'on appelle abusivement, à mon avis, la crise des vocations, ça vaut quand même la peine de rappeler que c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. Je dis abusivement parce que ma conviction, c'est que ce n'est pas l'appel qui est en crise, c'est plutôt la réponse à l'appel. Je suis convaincu que Dieu ne cesse pas d'appeler, qu'il n'a pas cessé d'appeler. Mais je suis aussi convaincu qu'il y en a qui ont les oreilles un peu bouchées, quoi. Et bien que ceux-là entendent que le ministère pastoral, les responsabilités en Église, le fait de s'engager pour le Seigneur, c'est une belle œuvre. Et le troisième point qui me semble d'intérêt, c'est que Paul parle de celui qui aspire à la charge d'épiscope et il dit qu'il désire une belle œuvre. Et je me dis, c'est chouette ça. Parce qu'on peut avoir tendance à penser que c'est un péché d'orgueil que d'aspirer à une responsabilité en Église, que de désirer œuvrer comme responsable. Paul dit autre chose ici. Je crois qu'il dit qu'il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de fausse modestie à avoir à désirer une telle œuvre. En fait, Philippiens 2,13 nous dit que quand nous sommes en Christ, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Alors évidemment, il convient de distinguer ce qui est de l'ordre de la volonté de notre chair, une volonté qui peut effectivement puiser sa source dans le péché, notamment dans le péché d'orgueil. C'est tout à fait possible de vouloir être responsable parce qu'en fait, on a envie d'être devant, d'être peut-être dessus. Or, ce n'est pas le cas. Il faut distinguer ça de ce qui est de l'ordre, effectivement, d'un authentique appel de Dieu qui produit en nous un désir qui, lui, est saint et pur. Et c'est pour ça que tout appel est soumis au discernement non seulement de la personne concernée, mais encore de l'Église tout entière. C'est pour ça que Benjamin se présente à vous aussi, parce que, eh bien, dans ce cheminement-là, on aura notre mot à dire. Il n'empêche que cette notion de désir, je la trouve importante aussi dans son propre discernement. Je me rappelle de l'un de mes profs de théologie à la fac, à qui j'avais dit un jour, tu sais, moi, j'aime vraiment prêcher. Ça me plaît de prêcher, j'aime bien ça. Et ça m'a marqué parce que j'ai vu son regard s'illuminer d'un coup, comme si j'avais brisé un tabou, comme si j'avais dit un truc qu'on a le droit de penser, mais que quand même on n'a pas trop le droit de dire. Et il m'a dit tout heureux, c'est vrai qu'on aime ça. Hein? Et oui, c'est vrai. Et encore heureux que c'est vrai, parce que comment est-ce qu'on pourrait bien prêcher si on y va chaque semaine à reculons? Comment est-ce que le Seigneur pourrait nous appeler à quelque chose dans la durée sans nous donner en même temps le désir, la volonté d'accomplir ce qu'il nous demande? Ça ne veut pas dire que c'est chose facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, voire même des moments de franc ras-le-bol où on a envie de tout envoyer balader. Oui, sachez-le, ça existe, priez pour nous. C'est comme partout. C'est comme dans tous les lieux qui demandent de l'endurance et de la persévérance, mais il y a d'abord cette conviction d'être à sa place. On ne s'appelle pas soi-même. C'est là aussi que le discernement collectif est important. Ce n'est pas juste moi, ce n'est pas que moi. On ne s'appelle pas soi-même, c'est même essentiellement pas moi en fait, c'est d'abord le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle. Et puis il y a effectivement en nous ce désir de répondre jour après jour à cet appel. Alors, si tu as ce même désir au fond du cœur, ce désir lié à ce qui ressemble fort à un appel, eh bien, plutôt que d'essayer de l'éteindre ou de te cacher derrière ta prétendue indignité, eh bien, viens en parler au conseil pastoral. Tu ne seras pas le premier et j'espère bien que tu ne seras pas non plus le dernier. Alors maintenant, on va voir les qualités requises. Et la première, ou plutôt celle qui introduit les autres, je dirais, c'est que l'épiscope doit être irrépréhensible. Ça ne met pas la pression, ça. D'autres traductions disent « irréprochable ». La traduction « parole de vie » dit même « sans défaut ». Sans défaut. Eh bien, on se calme, hein, parce que un seul est sans défaut, bien sûr. Un seul est sans défaut, et je vous assure que ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas les responsables de l'Église. Un seul est sans défaut, c'est le Christ. Alors, comment comprendre ce terme? Eh bien, une fois n'est pas coutume, le terme grec nous y aide. Littéralement, il veut dire qu'on ne peut pas saisir. Donc irrépréhensible, c'est pas mal, parce que c'est qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas attraper. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher pour ne pas se faire prendre, ce n'est pas l'idée. Mais évidemment que les responsables sont des pécheurs. Évidemment qu'ils sont des pécheurs. Mais c'est vrai que plus que les autres, ils ne doivent pas prêter le flanc au diable, dans le sens où ils ne doivent pas lui laisser de point d'accroche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire ce que Paul nous dit par la suite. Ne pas laisser de point d'accroche au diable, pour un responsable d'église, c'est être homme d'une seule femme, sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, non adonné au vin, non violent, etc. Et deuxièmement, ça veut dire qu'ils doivent être aptes à la repentance. Parce que ce qui donne un point d'accroche au diable, c'est le péché. C'est le péché dans nos vies. Et ce qui enlève le point d'accroche du diable, Eh bien, c'est la repentance. À partir du moment où la chose est mise en lumière, elle est enlevée des mains de l'ennemi. Une théologienne américaine qui s'appelle Beth Allison Barr, que je suis un peu sur les réseaux sociaux, a écrit il y a 3 jours sur Twitter « Franchement, si vous ne pouvez pas admettre que vous avez tort, vous ne devriez pas occuper des postes de direction. » Et elle ajoute « Une fois, j'ai entendu un pasteur dire, après avoir raconté une histoire où il devait s'excuser d'avoir eu tort, qu'il ne voulait plus jamais se retrouver dans cette position. » Et elle dit « C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de l'écouter. » Eh bien, je pense qu'elle a raison. Le responsable ne doit pas se présenter à l'Assemblée comme un super chrétien parfait et sans défaut, parce que ce n'est pas ce qu'il est. Il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est pécheur, et donc qu'il peut se tromper, et donc qu'il peut avoir la nécessité aussi de se repentir, parfois même publiquement. Maintenant, que ce soit en ne laissant pas de point d'accroche au diable ou en le lui ôtant par la repentance, il doit effectivement être exemplaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme on l'a dit au début, il est en position d'influence dans l'Église, pour ce qui est du dedans, et il est aussi en position de représentativité pour ce qui est du dehors. Et c'est ce dont Paul parle au verset 7 quand il dit qu'il faut que ceux du dehors lui rendent aussi un bon témoignage. Le responsable d'église, quand il est en dehors de l'église et qu'il y est a fortiori en sa qualité de responsable, il est là comme le pasteur de l'église baptiste de Chambéry. Évidemment, il ne représente pas que lui, il n'est pas là que en son nom propre, il représente toute sa communauté. Et donc, un bon témoignage de sa part rejaillit aussi sur toute la communauté. Et un mauvais témoignage également rejaillit sur toute la communauté. C'est pour ça que Paul a lui-même choisi Timothée comme collaborateur sur la base du témoignage des frères. Acte 16, verset 1 à 3 nous dit « Paul arriva à Derbé, puis à Lystre. Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. » Verset suivant, Paul voulut l'emmener avec lui. Il a un bon témoignage, il est apte au service. La deuxième qualité, c'est mari d'une seule femme. Alors là, je vais faire un teasing de fou. Est-ce que Paul est en train de dire que le responsable doit nécessairement être un homme ? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Parce que sinon, on est là jusqu'à 13h30. Bon, on sera là puisqu'il y a un repas fraternel, mais je pense que vous aurez faim avant. Pour aujourd'hui, on va passer au bloc sobre, pondéré, décent, et on s'arrêtera là. Et donc pour la suite, eh ben, vous savez ce qu'il faut faire. Vous pouvez ou revenir, ou éventuellement, si vraiment vous ne pouvez pas être là la semaine prochaine, vous pouvez écouter ça aussi sur Internet, puisqu'on les met sur notre site. Sobre, pondéré et décent. Alors, je me permets d'en faire un bloc parce qu'il me semble qu'on a là un ensemble cohérent. Il me semble que Paul dit grosso modo la même chose avec ces trois expressions. Le terme traduit par sobre dans ma Bible, la NBS, je le dis parce que y a vraiment les traductions diffèrent d'une Bible à l'autre. C'est donc le premier terme pour moi, c'est sobre dans la NBS. Ce terme, il provient de deux mots qui signifient l'esprit. Alors en grec, hein, qui signifie l'esprit, pas dans le sens de mon esprit spirituel, quoi. Ça c'est pneuma, c'est un autre mot là, c'est dans le sens de la capacité de jugement. Et le deuxième mot c'est sauf, dans le sens de sauver, donc capacité de jugement, sauver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien le responsable doit être saint d'esprit, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il doit être en capacité de réfléchir correctement pour prendre de bonnes décisions. Il doit avoir, dirait-on, l'esprit clair. Le deuxième terme que j'ai, moi, c'est pondéré. Lui, c'est le terme qui est utilisé, c'est un terme qui est utilisé pour ceux qui s'abstiennent de consommer du vin de façon immodérée. C'est joliment dit. Autrement dit, le responsable doit non seulement être saint d'esprit, mais il doit aussi faire en sorte de le rester. Grosso modo, on pourrait dire ça comme ça. Et finalement, le terme décent, c'est cosmios en grec, qui est apparenté à un mot que vous connaissez, qui est le mot cosmos. Et le cosmos, c'est quoi ? C'est le monde créé, bien ordonné, où chaque chose est à sa place. Donc l'idée générale, c'est que le responsable doit être en possession de ses facultés d'esprit. Il ne doit pas les altérer durablement par un comportement inadapté. et il doit avoir une vie qui soit réglée, qui soit bien ordonnée. On arrive au bout pour aujourd'hui, vous voyez qu'il en reste, il y a encore de quoi faire pour les fois suivantes, ou au moins pour la prochaine fois. Nous avons appris que celui qui aspire aux responsabilités dans l'Église fera bien de ne pas laisser de prise à l'ennemi. Pour ça, qu'il se sache serviteur et non seigneur, qu'il ne se gonfle pas d'orgueil, et s'il doit regarder de haut, que ce soit avec l'œil du veilleur, qu'il soit saint d'esprit, qu'il fasse en sorte de le rester, et qu'il fasse de sa vie un lieu bien ordonné. Mais enfin, dites-moi, responsabilité ou pas, celui qui suivrait un tel programme ne serait-il pas au fond bien avisé ? Est-ce là le lot du seul responsable ou celui tout bien réfléchi de quiconque souhaite bâtir sur le roc plutôt que sur le sable ? Évidemment, poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Je vais prier. Seigneur, d'abord, nous voulons te rendre grâce parce que tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui appelle. Tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui et un Dieu qui appelle encore aujourd'hui. Tu appelles certains parmi nous à se mettre à ton service d'une manière particulière. Bien sûr, tu nous appelles tous à être au service. Et certains, tu les mets à part pour être au service dans l'Église, pour prendre soin du peuple de Dieu. Nous te remercions pour ça. Nous te rendons grâce pour ça. Ces gens-là, tu les appelles d'une façon particulière à ordonner leur vie, à prendre soin de leur spiritualité, de leur relation avec toi. Mais au fond, tu nous appelles tous à ça. Nous sommes tous appelés à ça. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui parmi nous se rendent compte que dans un domaine ou à un autre, eh bien, leur vie est désordonnée. En vérité, si nous regardons tout au fond de nous-mêmes, très probablement, nous trouverons des lieux où ça n'est pas très bien rangé. Seigneur, agis dans ces lieux. En tout cas, tu nous demandes d'agir dans ces lieux. Et tu nous précèdes. Alors, je te prie de révéler à chacun, là, tout de suite, quels sont ces endroits où il y a des choses à travailler, à ranger, à remettre en ordre. Et je te remercie pour ce que tu vas faire cette semaine, dans les semaines à venir, dans chacun de ces lieux. Tu nous as donné la possibilité de reprendre le contrôle sur ces endroits qui sont peut-être un peu désaffectés dans nos vies, ces endroits où nous avons laissé la poussière s'accumuler, où nous avons laissé du désordre dans nos émotions, dans nos raisonnements, dans notre volonté ou notre absence de volonté. Seigneur, nous voulons reprendre le contrôle par ton autorité sur ces lieux-là. Et merci parce que tu nous en donnes la force et la capacité. Nous te rendons grâce pour ça. Nous voulons également te remettre tous les étudiants que nous avons vus défiler tout à l'heure, qui sont en train de se préparer pour peut-être, à un moment donné, arriver au ministère pastoral auquel ils pensent que tu les as appelés. Seigneur, merci pour tout ce processus de discernement, pour toutes les personnes qui les entourent dans leur discernement. On te remercie pour Benjamin aussi qui est au milieu de nous et qu'on veut entourer et accompagner, encourager. On te prie, Seigneur, pour que vraiment ça soit ta volonté qui éclate au grand jour, que ceux que tu appelles puissent aller jusqu'au bout et que ceux qui se leurrent arrêtent en temps et en heure, Seigneur. Nous sommes confiants parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Alors, on te les remet chacun. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons maintenant parler de la vie de l'Église, qui